Quelques années s'écoulèrent sans que Jean Michelet prît une décision quelconque. Faute de capitaux, il avait remis à plus tard la création de l'entreprise qu'il avait projetée. Parfois, l'on s'adressait à lui pour des conseils. Il vivait ainsi de rétributions assez vagues, de travaux pour des architectes établis, d'expertise pour des clients craignant d'avoir été trompés ailleurs. Puis vint la guerre. L'architecte était alors âgé de 33 ans. Il y avait 6 mois qu'il était mobilisé, qu'une balle vint lui traverser le bras, sectionnant les nerfs commandant la main gauche. À la suite de cette blessure, il fut réformé. De retour à Paris, commença pour lui la période la plus douloureuse de sa vie. Un soir de l'été 1915, comme il allait lire le communiqué qui, ce jour, était favorable aux troupes françaises, il lia connaissance avec une femme très belle, mais d'aspect sévère, venue, ainsi que lui, aux dernières nouvelles. Elle était vêtue de sombre et pouvait être âgée d'une 30aine d'années. Elle ne prêtait aucune attention aux officiers, aux soldats qui la côtoyaient dans cet attroupement. La perspective d'une victoire amenant la fin de la guerre l'avait sans doute poussée à adresser la parole à son voisin, qui était justement Jean Michelet. Il la raccompagna en l'écoutant parler. Il apprit ainsi, au cours de la route, qu'elle était mariée à un docteur qui était au front. Pratique, femme de tête, autoritaire mais bonne, Denise Vanier, elle s'appelait ainsi, avait pour son mari un amour et une admiration sans bornes. Elle ne vivait que pour lui. Quand il s'absentait, ne parlait que de lui. Les querelles qui avaient pu s'élever entre eux s'étaient toujours tout de suite éteintes. Ils n'avaient point d'enfants. Aussi se gâtaient-ils réciproquement, s'ingéniant à trouver des attentions, des preuves de leur amour. Chaque jour, ils s'écrivaient, se quittant à la dernière page sur ces mêmes paroles qu'ils prononçaient avant de s'endormir et se retrouvant le lendemain dans la lettre suivante comme un réveil. Elle accepta pourtant de revoir Jean Michelet, mais franchement, non sans lui avoir appris qu'elle souffrait trop lorsqu'elle était seule et qu'elle aimait mieux se confier à un étranger qu'à des proches. Les premières rencontres furent empreintes de solennité. On eût dit des rendez-vous ménagés par un tiers. Denise parlait tout le temps, était joyeuse, selon qu'elle avait ou non reçu une lettre de son mari, racontant ce qu'il lui avait écrit, ce qu'elle allait lui répondre. Il l'écoutait pieusement, puis la reconduisait jusqu'à la porte de son domicile, rue Thouin. Jamais elle ne riait. Quelquefois, pourtant, elle l'accueillait avec un sourire aimable. Il était un peu désagréable à Jean d'être le compagnon d'une femme dont le mari risquait chaque jour sa vie. Mais elle était à son égard si froide, si distante, les conversations roulaient sur des sujets tellement proches de l'absent, quand ce n'était pas sur lui, que, malgré qu'il en eût, il ne lui semblait pas mal agir. Un soir, elle arriva, lui semblait-il, avec un visage plus reposé que d'habitude, avec même quelque chose de joyeux dans le regard. L'été tirait sur sa fin. « On m'a affirmé, dit-elle tout de suite, que ce sera fini pour l'automne, que les hommes ne pourront jamais passer un deuxième hiver. » Puis Denise, qui, jusqu'à ce jour, n'avait fait que parler de son mari ou d'elle, manifesta de la curiosité à l'endroit de Jean, lui posant des questions, lui demandant des détails sur sa vie. L'architecte venait d'entreprendre le récit du vol de son frère, lorsque tout à coup Denise l'interrompit. « Soyez gentil, écoutez-moi. Vous terminerez tout à l'heure. Je pense à ce que m'a affirmé une personne. Croyez-vous que la guerre puisse finir avant l'hiver? Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je souffre par les nuits de vent et de gel. Je pense à lui. Je me dis, il est peut-être couché dehors. Il est peut-être incapable de marcher. Il est blessé. Les hommes de sa compagnie ne le savent pas et ne peuvent pas aller à son secours. Et je n'ose pas ouvrir la fenêtre tellement le noir me fait peur. Je crie, vous savez, en voyant le noir devant moi et en pensant qu'il est là quelque part dans cette nuit alors qu'il pourrait être près de moi où il fait chaud, où on l'aime, où on le soigne. Je vous jure que le matin est une délivrance pour moi. Alors seulement je m'endors. » D'autrefois, quand elle était plus optimiste, il lui arrivait de parler des petits défauts de son mari. « Ah, il n'était pas toujours commode. Il se fâchait quelquefois comme un vilain garnement. » « Oh, cela ne durait pas. Je n'avais qu'à faire la moue et il venait bien sagement m'embrasser. Eh bien, savez-vous ce que je faisais alors? Je lui disais, Non, mon petit, c'est trop simple. Tu n'as qu'à me dire les pires choses et après tu fais ton joli visage. Non, pas aujourd'hui. N'avais-je pas raison, monsieur ? Jean Michelet l'approuvait, mais il ressentait de plus en plus une sorte de douleur, un peu semblable à celle que cause la jalousie, moins forte et en même temps plus désagréable, car il ne savait comment lutter contre elle. Un soir, il lui apporta des fleurs. Elle les accepta en riant et, pour le remercier, posa sa main sur la sienne en disant « Vous êtes un fou !» À 9 heures, il la quitta tout ému. L'image de ce major, dont la femme avait tant parlé qu'il le connaissait mieux qu'elle, qu'il savait sur lui des détails qu'il ignorait sur elle, s'estompait pourtant dans la brume. Denise, comme si elle eût été seule au monde, se dressait devant lui. Elle était vivante. Son mari n'existait plus, ou du moins n'existait que peint avec des mots, comme un parent mort depuis des années. Le lendemain, Denise arrivait au rendez-vous comme si rien ne s'était passé la veille, le visage calme et reposé. Jean la regarda comme si elle eût pu, un jour, lui appartenir. « Alors, Denise ?» C'était la première fois qu'il osait l'appeler par son prénom. Elle n'en fut pas surprise et en souriant répondit « Alors, monsieur Jean ?»« Voilà, » dit-il. « Voilà, » répéta-t-elle, mais en montrant les paumes de ses mains comme si on l'eût accusé de cacher quelque chose. Elle ne cachait rien. Elle aimait son mari et n'aimait que lui. « J'ai peur !» dit tout à coup Denise, comme les sirènes venaient de mugir. « Je vais rentrer !» Cette parole glaça l'architecte. Son emballement tomba. Il regarda l'heure. « Il n'est que 9 heures. »« Je rentre ! Je rentre ! Je n'ai pas eu de lettre aujourd'hui et je veux rentrer !» Un quart d'heure après, elle prenait congé de lui sur ces mots, les mêmes qu'elle prononçait chaque soir. « Alors, vous viendrez demain ?» Jean Michelet était loin de se douter que c'était la dernière fois qu'il entendait cette interrogation dans la bouche de Denise. Le lendemain, en effet, il attendit la jeune femme en vain. Une semaine durant, il se rendit, chaque soir, au café où ils avaient eu l'habitude de se rencontrer, mais chaque soir à 9 heures, à la fermeture, il s'en retournait seul. « Son mari est venu en permission, » pensait-il en marchant. « Dès qu'il sera parti, elle viendra. » Un mois s'écoula, durant lequel Jean ne manqua pas un soir d'aller au café, mais Denise ne parut pas une seule fois. À ses espérances avait succédé un profond abattement. Il ne désirait rien, vivait sans se soucier des événements, uniquement préoccupé de rôder autour du café. La rue Toin, où demeurait Denise, où il l'avait tant de fois accompagnée, était toute proche. Une crainte obscure l'empêchait de la parcourir, car au fond de lui-même, il expliquait la disparition de la jeune femme par le retour de son mari. Il était peut-être réformé ou en convalescence. Jean Michelet redoutait plus que tout de la rencontrer à son bras. Mais un mois plus tard, il n'y tint plus. Il se rendit rue Toin, passa devant l'immeuble qu'elle habitait, repassa, se postant tantôt à un bout de la rue, tantôt à l'autre, regardant les fenêtres du 1er au 6e, car elle n'avait jamais voulu lui dire quel était son étage. Nulle part les volets n'étaient fermés. Elle se trouvait certainement à Paris. Un matin, alors qu'il venait de s'engager dans la rue Toin, il vit une femme en grand deuil sortir de la maison de Denise et se diriger vers lui. Il s'arrêta. Tout à coup, la respiration lui manqua et il rougit jusqu'aux oreilles en une seconde. Il venait de reconnaître Denise. Elle s'approchait de lui. Son visage amaigri était pâle. Ses yeux semblaient plus grands, les lèvres sans vie. Elle marchait avec raideur, comme si elle eût été alitée plusieurs semaines. Ses mains, gantées de noir, se perdaient dans le noir de la robe. Les épaules étaient droites et hautes. Elle s'approchait toujours. Jean, la bouche entr'ouverte, respirait à petits coups, un peu comme s'il eût haleté. Elle était à quelques mètres de lui. Elle le regarda, parut ne point le reconnaître, le dépassa sans que rien sur elle, sur son visage, eût bougé. Quelques mois après la fin inattendue de cette liaison, Jean Michelet se rendit à Nancy, alors en pleine zone des armées, son père lui ayant écrit qu'il voulait le voir. Au cours d'une permission, Philibert avait avoué à Michelet la vérité. Celui-ci s'était alors rendu compte qu'il avait été injuste à l'égard de son fils aîné et lui avait écrit de venir passer une semaine ou deux près de lui. De retour à Paris, avec l'argent que M. Michelet lui avait avancé une deuxième fois, Jean monta peu à peu, prudemment, son entreprise. Il n'y avait pas d'homme. Il était honnête, scrupuleux. À la signature de l'armistice, l'affaire marchait déjà bien. Mais au cours des années suivantes, il ne sut plus où donner de la tête. De toutes parts, on lui commandait des travaux. Il fut obligé d'établir un tour. Si nombreux étaient ses clients, que le dernier attendait parfois 2 mois avant que l'on commençât à s'occuper de lui. En 1924, son père mourut. De nouveau, il se rendit à Nancy et, pour la première fois, se trouva face à face avec son jeune frère. Il avait changé. La guerre l'avait rendu plus ouvert, plus exubérant. Les deux hommes ne s'adressèrent pourtant point la parole. Ce fut pendant la vente de la ferme qui eut lieu peu après l'enterrement de M. Michelet qu'il fit la connaissance d'Antoinette Rigal. Fille d'un riche propriétaire, justement sur le rang des acheteurs de la ferme, elle était âgée de 35 ans et semblait vouée au célibat. Assez forte, le visage aux traits masculins, la seule occupation de sa vie avait été de gâter son père, dont la femme était morte en mettant au monde cette fille. M. Rigal avait exercé sur elle non seulement l'emprise d'un père, mais un peu celle d'un mari, si bien qu'Antoinette, chaque fois qu'elle se trouvait en présence d'un homme, qu'elle l'écoutait, qu'elle se prenait à s'intéresser à ses paroles, avait comme l'impression de tromper son père. Au contact de ce dernier, elle s'était familiarisée avec les habitudes des hommes, avec leurs vêtements, avec leurs goûts, et avait fini par avoir presque l'air d'une femme mariée. Inconsciemment, elle avait de celle-ci la manière de parler, de se plaindre, de se distraire, sans que pourtant jamais elle eût appartenu à qui que ce fût. On pouvait compter devant elle des histoires à double sens qu'elle paraissait comprendre et souriait. Elle cachait ainsi ce qu'il pouvait y avoir d'anormal dans ce célibat prolongé. Gênée d'être vieille fille, elle se servait de tout ce qu'elle avait appris en soignant son père, en commandant les domestiques, en dirigeant une maison, pour se donner les apparences d'une vraie femme. Aussi, quand Jean la demanda en mariage, répondit-elle comme l'eût fait une veuve ou une femme divorcée, avec calme et réflexion, envisageant cette union, semblait-il, ainsi qu'une affaire d'intérêt. En réalité, elle était profondément émue. Quoiqu'elle s'imposât de paraître ne rien ignorer des habitudes de l'homme, elle se sentait toute perdue devant Jean Michelet, mais s'efforçait de ne point le laisser voir, ce qu'elle eût jugé ridicule à son âge. L'entrepreneur fit plusieurs fois le voyage de Nancy avant qu'elle consentît, car bien qu'elle brûlât de se marier, elle voulait que son fiancé crût qu'elle n'y tenait pas tellement, sans quoi elle ne l'eût pas attendu. Elle avait pris l'attitude d'une femme qui, ayant souffert au cours d'une première union, hésite à se remarier. Finalement, elle accepta, et peu après la célébration du mariage, qui eut lieu à Nancy, vint habiter Paris avec son mari. Il commença aussitôt à Neuilly la construction de la villa, la vie là. Quelques mois plus tard, les époux Michelet étaient installés. Peu après, à un an d'intervalle, naquirent 2 fillettes.